Oui, je voulais juste, au-delà de souligner la qualité, je trouve, des projets présentés, hein, que ce soit par les deux collègues, simplement ajouter que sur le site Écriture de Lumière sont présentées différentes démarches artistiques menées par des artistes dans les classes. Et c'est vrai que quand on travaille sur le premier degré, quand on a envie de monter ce type de projet, ça permet d'avoir déjà un petit peu, comment dire, un regard sur ce qui a pu se faire et permettre ensuite de monter un projet avec des écoles. Mais en tout cas, je trouve que c'est des très, très, très beaux projets.
Donc moi, je suis prof d'histoire-géographie. Alors, je voudrais apporter un peu mon éclairage. Je trouve vraiment les démarches passionnantes et l'utilisation de la création très, très intéressante. Mais il me semble qu'on pourrait aller plus loin dans la pluridisciplinarité, parce que je trouve qu'ici, elle reste toujours cloisonnée autour, en fait, de disciplines artistiques, dites artistiques, et de la littérature. Donc du français, on va dire, pour... voilà. Or, il me semble que, par exemple, dans le projet Territoire, la géographie avait un rôle fondamental qui a été complètement occulté. Et c'est dommage. Voilà, c'est une autre piste qui pourrait être traitée. Hein. Je dis pas que c'est facile de tout traiter à la fois. Mais je trouve que... Et il me semble que les maths, que les sciences ont aussi leur rôle à jouer en premier degré. Et qu'il faudrait penser... et c'est peut-être la faute des enseignants, je veux dire, des formateurs, hein, de ne pas s'inscrire, des formateurs d'histoire géo, de sciences, etc., de ne pas s'inscrire aussi dans cette démarche d'histoire des arts pour venir ajouter leur grain de sable à ce schéma. Et puis, il y a une chose qui me gêne, par contre, là, je tiens à le dire, c'est que hier on a évoqué l'importance de la contextualisation. Et là, dans le dernier projet, que je trouve très intéressant, là aussi, dans sa démarche, avec plein d'ouverture. Il est basé sur de la créativité. Alors, c'est bien l'aspect créatif, hein, j'en suis pleinement consciente, mais il aboutit à quand même des anachronismes et des erreurs historiques absolument catastrophiques pour la formation des jeunes. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement à leur permettre de réaliser un imaginaire et de vivre leur créativité, c'est un aspect très important, mais ils vivent dans un monde réel. Et donc, je crois qu'il faut absolument, là, il aurait fallu un travail d'histoire sur Napoléon Hannibal. Enfin, et j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait. Je sais pas, voilà. Hein. Mais moi, je trouve qu'il faut faire attention. Enfin, disons que pour moi, ça souligne un danger. Un danger, c'est d'en rester à la création d'un monde virtuel. Or, aujourd'hui, nos élèves et nos enfants, plus généralement, vivent de plus en plus dans un monde virtuel, déjà. Et donc, je pense qu'il faut absolument toujours accrocher. Je pense aussi à l'album plastique, que je trouve très intéressant, et par exemple à la vision de la rue. C'est une vision idyllique du monde SDF. Et je trouve que, par exemple, le regard instruction civique, le regard sociologique sur ce que c'est que la vie d'un SDF réellement dans la rue... aurait été à confronter pour enrichir tout ça et donner de la profondeur. Alors, je jette pas du tout la pierre aux collègues, parce que je sais très bien la difficulté de creuser tout ça, mais je voudrais signaler ce danger-là. Pour moi, c'en est un qui me semble un petit peu embêtant.
Je vais répondre. Donc, évidemment, la dimension géographie était très importante dans le territoire, et moi, je viens capter, et je suis conseillère pédagogique en arts visuels, je viens capter des fragments, en fait, des projets, et je n'ai pas la prétention de restituer la totalité et la globalité de ce qui est fait. J'axe vraiment sur art visuel, parce que sinon, les pages du site web, elles se feraient des kilomètres et des kilomètres, il y aurait trop de choses. Bien évidemment, les choses ont été dites, faites, etc., mais ne sont pas forcément restituées. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, qu'à partir du moment où on ouvre sur les disciplines, il y a des moments aussi où s'il y en a trop, ça devient un peu bouilli. Donc ça, c'est un peu aussi la méfiance qu'on a. Par rapport aux maths, donc il y a quelque chose que j'ai pas montré en cycle 3, qui a été une expérimentation de lien entre la géométrie et les arts, qui s'appelle GéoArt, à partir d'une construction de problèmes de géométrie, et qui va aller sur la réalisation d'objets, donc vous pourrez aller voir. Mais effectivement, je crois qu'on n'a pas fini le chantier, qu'on est sur des interrogations aussi, et on ouvre des petites choses, on essaye de restituer, mais on n'a pas la prétention d'être complètement cohérent par rapport à ce qu'il faudrait faire.
Oui, moi je suis assez d'accord avec l'intervention précédente, et ça rejoint un peu l'intervention que j'avais faite hier concernant le goût actuel pour le catalogage, et par rapport auquel aussi j'ai quelques réticences concernant l'enseignement de l'histoire des arts, parce que précisément il est l'objet de confusions importantes. C'est-à-dire que moi aussi, dans tous ces projets, ce qui m'a un peu gênée, c'est que on utilise par exemple le dessin ou les pratiques plastiques toujours en illustration, ce qui me paraît quand même être enfin un fonctionnement plus qu'académique, mais carrément régressif, d'une part, et d'autre part, très souvent aussi les pratiques plastiques ne sont s'arrêtent là, c'est-à-dire qu'on ne les avance pas, on ne leur donne pas une dimension rationnelle, elles ne sont là que à la fois comme illustration ou comme support de proposition pour d'autres disciplines. Et donc, à mon avis, le grand écueil de ce catalogage dont vous parliez au début, c'est-à-dire toutes ces injonctions qui sont extrêmement ouvertes, où précisément il est nécessaire pour les enseignants d'avoir suffisamment de compétences dans chaque discipline pour pouvoir faire les liens, il se trouve qu'à l'heure actuelle, comme ils n'ont pas suffisamment de formation et de compétences, au lieu d'affiner des connaissances des connaissances particulières, spécifiques à des disciplines, de façon ensuite à établir véritablement des projets pluridisciplinaires, ils font une espèce de sauce qui n'a pas de sens. Et à mon sens, parmi un certain nombre de projets qui ont été présentés, pour moi, ça fait plaisir aux enseignants, peut-être, mais en tout cas, j'ai trouvé que certains enfants étaient extrêmement instrumentalisés, c'est-à-dire que les scénographies sont faites par les artistes, par les enseignants, et où sont les apprentissages ? On est quand même, moi je suis assez d'accord, dans une école où les enfants, à l'heure actuelle, sont dans le zapping permanent, des circulations en réseau qui ne leur permettent pas de comprendre véritablement les relations heuristiques, précisément, entre les différentes disciplines, et qu'on contribue avec cette confusion qui peut être l'objet de l'histoire des arts, précisément, à continuer dans ce sens-là, qui me paraît dramatique. Voilà. Alors, pour ça, pour ne pas rester que dans le négatif, dans la critique, est-ce qu'il ne serait pas pensable, peut-être, d'envisager des manuels concernant l'histoire des arts qui proposeraient des pratiques qui seraient beaucoup plus orientées sur la pédagogie de projet, c'est-à-dire qui resserrerait davantage autour des apprentissages et de quelque chose qui serait beaucoup plus unifié et relié autour de l'intérêt des élèves, mais beaucoup moins qu'autour des idées des enseignants qui font des sauts entre eux, des réseaux qui leur paraissent efficients, mais qui, à mon sens, ne le sont pas forcément pour les élèves.
Voilà. Permettre de répondre. Enfin, pour ces histoires de manuels, je sais qu'il y avait un comité d'experts qui avait été créé justement et qui avait commencé à faire ce projet. D'ailleurs, c'est jeudi, il y a Cyril Bray qui va intervenir ici et qui avait été appelé pour participer à ce manuel. Et le projet a été abandonné. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est partir donc du régional, par exemple du local, partir de ce qu'il y a et de faire des manuels qui sont nationaux, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une explication. En tout cas, pour l'instant, c'est en sourdine, le projet. Alors, excusez-moi,
je ne serais pas aussi sévère. Hein, c'est peut-être parce que je manque un peu de recul, de connaissances, etc. Mais en même temps, c'est vrai que la question de l'évaluation des apprentissages en histoire des arts se pose depuis le début. Hein, parce que bon. Avec plein d'autres questions d'ailleurs, mais j'ai trouvé qu'au moins les interventions de ce matin avaient le mérite de présenter des travaux pluridisciplinaires et ce qui n'a jamais été vraiment abordé de front, ce qui est difficile pour nous à imaginer. Et je trouve que par exemple, enfin, c'est un élément de réponse, mais dans l'évaluation des apprentissages des élèves, je pense que là, on a bien vu qu'à chaque projet, il y avait un carnet, et ce carnet, c'est une évaluation de leur travail et de leurs apprentissages. Moi, je trouve que c'est très dur. Je me pose quotidiennement la question de l'évaluation. Et évaluer l'histoire des arts, si on ne veut pas rester dans un truc où on vérifie qu'ils ont bien des connaissances et des repères, il faut qu'il y ait de la création, de la réflexion, du retour sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a échangé, qu'est-ce qu'on a... Voilà. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même un travail très, très poussé là-dessus.
Je me permets de réintervenir parce que je vous trouvais très très sévère, d'autant plus. Alors c'est vrai que nous on travaille avec les enseignants directement hein, dans des temps comme ça pédagogiques spécialisés. Et je suis assez, je me permets vraiment de réagir un peu à chaud parce que le travail qu'a montré notre collègue, c'est, comme elle le dit, une restitution d'une démarche de création, ce qui n'empêche pas de l'enseignant un travail d'évaluation en amont. Et puis ensuite, là, cette semaine, sont parues sur le site EduSchool, hein, les grilles de référence pour évaluer les paliers 1 et les paliers 2 dans tous des domaines, et entre autres dans la pratique des arts et la culture humaniste. Et en effet, le carnet d'art est un support d'évaluation. Ça n'empêche pas, je pense, le travail de l'enseignant en amont de repérer déjà ce qui va être dans les apprentissages, dans la pratique des arts, dans tout ce qui est dégagé des cartes d'une œuvre. Et c'est ce qui est fait, j'imagine, quand il y a cette ouverture culturelle en montrant des œuvres. Je pense que là, le propos de notre collègue n'est pas de montrer le travail d'apprentissage, hein, mais de montrer, à travers un travail de partenariat, quelles sont les mises en réseau, quels sont les temps, les invariants des démarches de création à différents projets, mais quelles sont l'évaluation. Je crois qu'on ne l'a pas posé dans ce cadre-là. Voilà, donc je suis un peu... Alors peut-être que ce n'est pas du tout une réaction par... on va dire esprit de corps, hein, mais je crois vraiment que ce n'était pas le propos de notre collègue de montrer ce travail-là. Et question de l'apprentissage n'est pas remise en question. Après, pour revenir peut-être sur l'instrumentalisation hein, des artistes, je crois qu'on travaille, quand un travail est fait avec des artistes, moi je retrouve beaucoup dans les projets qui ont été présentés, à un moment, les élèves rencontrent une artiste, il se passe une vraie rencontre. Voilà, d'écho, hein, on travaille au fur et à mesure, et l'enseignant aussi apporte son regard, et ce n'est pas parce qu'on va retravailler sur un procès de l'artiste, ici avec Delphine Bellet sur la mise en scène, que les enfants sont instrumentalisés. Simplement, ils vont rentrer dans un regard de l'artiste, ce qui ne va pas empêcher différentes productions par les élèves avec leur propre démarche. Voilà, c'est simplement, j'en arrête.
Je vais passer la parole, mais pour l'instrumentalisation des élèves, avec l'intervention qu'on avait vue hier, par exemple, qu'on disait, mais ces artistes-là sont des élèves de Jean-Marie Glaise. En fait, on reconnaît le style. Hein, c'est...
Bonjour, merci aux présentations de ce matin. Je ne sais pas si je vais trouver un consensus entre tout le monde, parce que je crois quand même qu'on est quand même tous un petit peu d'accord sur un certain nombre de choses. La démarche qui existe, elle a déjà effectivement le mérite d'exister. Il y a un travail qui est fait. Il y a une codisciplinarité, on va dire, même si pas toujours une inter ou une trans, comme on pourrait l'imaginer pour l'histoire des arts. Je pense que la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement le problème de la question. C'est-à-dire, quel sens, si je travaille sur l'abri, quel sens pour l'enfant je donne à l'abri? Et immédiatement, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, abri, sans abri, qui suis-je? Je me situe comment par rapport à une maison? Quand on pose le problème du territoire, c'est quoi le territoire pour moi? Moi, en tant qu'adulte, moi, en tant qu'enfant, c'est quoi mes territoires? Pourquoi c'est intéressant de se poser la question du territoire? Et à ce moment-là, on simplifie les entrées. Parce que sinon, effectivement, on tombe dans le catalogue et on tombe dans la profusion et sur lesquels on n'arrive pas à choisir. Et je pense que si on revient aux fondamentaux, alors bien sûr, je suis inspecteur, donc je vais revenir au texte, les piliers historiques, effectivement, la datation des choses, les thématiques, la question art est à pouvoir, art rupture et continuité. C'est-à-dire que sous cette thématique, je me pose une question. Cette question va s'enrichir des domaines, des arts, et de ce fait, on concentre. Et à ce moment-là, une fois que l'élève réalise quelque chose, parce qu'il s'est posé une question, et que dans l'art, il va y trouver des réponses, et dans sa création, il va trouver des réponses à cette question, qui fera qu'il sera plus tout à fait le même citoyen demain. Je crois que, vraiment pour moi, l'histoire des arts, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que transformer chez nos élèves une vision du monde, ne pas être passif face à une réalité quotidienne, et de se dire, eh bien, cette démarche artistique croisée par mes enseignants, par les artistes, par la création que je fais, fait que je ne suis plus tout à fait pareil. Et à ce moment-là, je pense qu'on se réunit tous. Voilà.
Alors, une remarque de méthode. Moi, je crois qu'il faut qu'on calme le jeu, hein. Sinon, on se retrouve dans un schéma classique où l'action des gens sur le terrain devient un lieu d'échange d'opinions, d'évaluation. Je ne pense pas qu'on doit passer par cette fonction-là d'abord. Moi, je trouve... il était annoncé dans l'annonce de ces journées-là de faire un état des lieux. Par exemple, l'état des lieux, c'est ça. Il y a une circulaire qui est tombée sur les enseignants. Alors, ça répond à des besoins sociaux. Ça s'inscrit dans le cadre des finalités de l'enseignement, des spécificités disciplinaires, tout ce qu'on veut. Mais les enseignants s'en emparent et produisent à partir de ça. Donc il y a divers niveaux dans l'institution, hein, il y a les instructions, il y a... Bon, voilà. Et tout ça, ça part pas, ça n'a pas démarré en 2008. Ça, c'est une incidence à propos de... une incidente que j'ai eu envie de faire plusieurs fois, notamment quand Mme Broll a rappelé la circulaire de 2008. Si, ça y est. Voilà. Bon, ça, c'était l'incidence. Il me semble que ça peut être la fonction de non pas forcément de ces journées, mais... Enfin, la fonction de ces journées, ça peut être de poser cette question-là et puis après qu'on se donne les moyens de traiter. C'est-à-dire, quelle est l'histoire des enseignements d'histoire de l'art, quoi. Des arts. De l'art et des arts. Alors, à propos de ce que font les collègues, moi, je pense qu'il y a une question de méthode. Et ben voilà, il y a à différents niveaux. Les injonctions institutionnelles sont traitées au niveau des inspections, au niveau des formateurs, au niveau des enseignants, au niveau des conseillers. Et moi, je trouve très intéressant que notre collègue ait présenté cette carte mentale là, avec toute la complexité qui tombe sur les enseignants qui n'ont pas forcément fait un doctorat ou qui ne sont pas forcément spécialistes d'art plastique ou qui ne sont pas forcément spécialistes de danse ou de musique. Bon, voilà. Et par contre, la question que ça nous pose, c'est effectivement qu'est-ce que nous, on peut apporter à la compréhension, quels éléments d'orientation, de compréhension, quelles articulations on peut faire avec ce que j'appellerais bêtement les fondamentaux de l'éducation nationale, hein, tous ces objectifs, tout du point de vue social, du point de vue artistique, etc. Comment on peut s'orienter dans ce territoire-là? Et comment on peut... et quelles questions, alors au niveau de la recherche ou au niveau des formations, quelles questions scientifiques on peut poser? Comment on peut problématiser ça? Quelle balise on peut commencer, quelle clarté, quelle... Voilà, on peut commencer. Mais je pense qu'on ne peut pas commencer par « vous n'avez pas fait ci, vous auriez dû faire ça ». Ils ont fait ça, je trouve ça remarquable. Regardons déjà ce qu'il y a dedans.
Oui, je vais essayer de ne pas être trop long parce que j'aimerais intervenir sur, je vais pas dire l'ensemble de la matinée. Tout d'abord, l'intervention de notre collègue de la DRAC. Je l'ai trouvée très intéressante parce que elle rappelait une chose, c'est la mission de la DRAC et de l'éducation nationale en matière de mobilisation des acteurs de l'éducation artistique et culturelle. Le problème, c'est la manière de, on peut dire, d'en tirer parti. Et je crois que il faut éviter. Il y a un aspect qui peut être dérangeant, c'est l'aspect un peu prêt à consommer. Et je crois qu'il faut surtout pas tomber là-dedans. Et là, on a tous un travail à faire, les enseignants auprès des élèves, les corps d'encadrement auprès des professeurs, etc., etc. Hein, je crois que donc c'était un aspect de l'intervention de notre collègue de la DRAC qui m'a paru très important à souligner. Alors, d'autre part, ensuite, dans le deuxième exposé de Corinne Lacaze, j'ai trouvé plein de choses intéressantes, dont une chose, c'est quand elle a présenté la frise chronologique qui était exposée sur un fil avec des personnages. Et je crois que là, on touche un point sensible, hein, le point où ça fait mal, et je crois que les détracteurs de l'histoire des arts, dès le départ, ont tout de suite vu. Hein, on a dit, de toute façon, les enseignants des disciplines artistiques vont se quereller avec les historiens, parce que les uns ne sont absolument pas chronologistes. Hein, ça fait plusieurs décennies que nous agissons non pas en chronologie, mais donc plutôt par des points d'ancrage. Et les historiens, eux, ne peuvent pas faire autrement que d'obéir à une chronologie linéaire. Bon, eh bien, je crois qu'il faut dépasser ce débat qui peut être, très peut-être répandu, hein, peut-être immédiat, dirons-nous, Parce que, en fait, ce sont deux modes d'approche qui se complètent. En effet, que l'on regarde, que ça soit en éducation musicale, ils placeront Ravel avant Lully sans aucun problème, ou bien, Napoléon III avant Charlemagne. Hein, de toute façon, ça dérange pas, y a nombre d'élèves. Bon, donc le problème est le même. C'est-à-dire que l'une et l'autre méthode, bon, nous avons des problèmes. Et je crois que ce qui est important, c'est que l'histoire, par sa vision linéaire, va aider les disciplines qui ne sont pas chronologistes à dresser cette perspective. Et inversement, les disciplines qui procèdent par ancrage et par mise en perspective vont aider à fixer cette linéarité de la chronologie chez les historiens. Pour une raison. Il y en a d'autres certainement, mais pour une raison qui m'est venue à l'esprit assez vite, c'est que nous abordons nous les points d'ancrage par le sensible. Donc c'est un ancrage qui est profond, on pourrait dire qui est presque corporel et non pas en premier intellectuel. Donc voilà cet exemple nous le montrer. D'autre part, ce qui était, il y avait un, et alors la dernière intervention, bon, moi j'ai trouvé vraiment formidable toutes ces choses qui nous ont été dévoilées, pas dans le détail, nous n'avions pas le temps, mais qui apportaient qui traitaient les unes les autres de points sur lesquels nous nous interrogeons encore. Et je crois que ça, c'est important. On voyait très bien, je reviens, il y avait un projet sur le Moyen-Âge. Eh bien, ce projet se distinguait des autres. Pourquoi ? Parce qu'il ne posait pas de questions. C'est un projet bloqué. C'est un projet qui ne pose pas de questions. Et ça, c'est important. Et je terminerai en prolongeant la remarque de ma collègue à l'instant. L'important, c'est de poser une problématique, de poser une question. Et de tâcher d'y répondre. Je crois que j'ai fait un peu le tour de la question et j'ai partagé un peu avec vous l'impression que j'avais sur les éléments très riches de cette matinée.
Bonjour, alors moi je suis conseillère pédagogique art visuel dans les Yvelines. Alors j'ai découvert là que finalement on avait beaucoup de chance parce que entre CPAV on se dit beaucoup dans le département que ça va de mal en pis. Et je constate, là en discutant avec les uns et les autres, que finalement on n'est pas si mal loti que ça. Bon, déjà c'est vrai qu'étant en Île-de-France, on a la proximité des différents partenaires culturels. Nous sommes 6 CPAV pour le département, ce qui est beaucoup. Enfin, nous ça nous paraissait peu, mais en réalité je découvre que c'est beaucoup. Et nous bénéficions encore, et nous savons que l'année prochaine ça continuera, d'un budget énorme pour les classes à Pâques. Donc nous en avons beaucoup dans le département parce que notre inspecteur d'académie y croit fermement. J'ai particulièrement apprécié aussi les interventions de ce matin. Et elles m'ont aussi permis de voir certaines différences. Alors nous avons un cadrage très fort dans le département pour l'histoire des arts. Moi, par exemple, j'ai 5 circonscriptions. Dans une de mes circonscriptions, l'inspectrice a annoncé cette année qu'elle inspecterait uniquement en histoire des arts. Ce qui fait que... alors, pourquoi ? Non, mais j'explique. Hein, pourquoi ? Elle l'a expliqué clairement en réunion des directeurs. Parce que sa mission première est de faire en sorte que les programmes soient appliqués dans les classes. Donc, constatant que l'enseignement ne se mettait pas en place, elle l'a imposé. Donc je me suis fait beaucoup d'amis dans la circonscription. Mais en tout cas, ça a eu le mérite d'engendrer une réflexion très forte, du coup, dans la circonscription. Beaucoup de choses se sont mises en place au niveau des animations pédagogiques, de la formation continue, puisque là aussi, je constate que nous avons de la chance, puisque dans le 78, nous avons encore un PDF avec beaucoup de stages de formation continue. Non, non, mais Non, non, mais tout ça pour vous dire, voilà, mais c'est une surprise pour moi aussi, hein, donc c'est intéressant d'en parler. Et alors nous, du coup, nous avons adopté certaines lignes qui sont parfois différentes de celles qui ont pu être proposées ce matin. Par exemple, il y a un refus d'une progression chronologique en histoire des arts. Pour deux raisons. Parce que il a été estimé que l'objectif premier de l'enseignement de l'histoire des arts était justement le développement d'une certaine curiosité intellectuelle et artistique, la mise en place d'un questionnement, et que les repères, de toute façon, on allait y venir. Mais voilà, que ce qui importait avant tout, c'était effectivement la problématique. Et la deuxième raison pour laquelle cette progression chronologique n'est pas recommandée, c'est pour éviter une disproportion énorme entre le CE2, qui se cantonnerait par exemple à la préhistoire et l'Antiquité, et le CM2, qui aurait une programmation énorme. Du coup, c'est plutôt une progression spiralaire qui est recommandée. Et pour revenir à ces repères, ce qui est recommandé dans les classes, c'est à la fois une frise collective qui va se constituer progressivement au fur et à mesure des rencontres qui vont avoir lieu, des rencontres d'œuvres, et un cahier personnel d'histoire des arts, qui est en fait un classeur de cycles, avec des intercalaires. Et en gros, ce qui se passe, c'est que chaque intercalaire correspond à une période, et les élèves vont ranger dans chaque intercalaire l'œuvre qu'ils vont avoir étudiée, de façon à toujours revenir sur les repères, quel que soit... Voilà. Donc ça s'est mis en place dans la douleur, dans les classes, mais ça s'est mis en place. Et je pense que c'est un outil qui fonctionne. Voilà, donc je voulais faire cette petite parenthèse. Deuxième parenthèse, je pense effectivement avec l'intervention de Madame Miossens, qu'on a vu que les classes à Pâques étaient quand même un lieu très privilégié pour la mise en place de l'histoire des arts, parce que ça permet justement la mise en réseau de différents domaines artistiques. On pose des jalons culturels. Effectivement, il y a un apport culturel très très important. C'est peut-être parfois assez humble du côté des enseignants du premier degré, puisque effectivement on leur demande d'être polyvalents, mais ce n'est pas forcément évident pour tous. Mais il me semble que, enfin voilà, c'est très important. Ensuite, il y a quand même une question moi que je me suis posée suite à l'intervention de Madame Lacaze, c'est quand est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on est dans l'histoire des arts ou pas ? C'est-à-dire que si je peux me permettre, sur les 5 propositions que vous avez évoquées, moi, il y en a 3 qui m'ont interpellée par rapport à la définition de l'histoire des arts. Cette histoire de dictée, parce que, enfin, je pense que vous le savez, il y a un site internet, Histoire des arts dictée, où vous trouvez toute une série de dictées qui sont associés à des œuvres d'art. Et en fait, le texte de dictée est accompagné de mots aussi à apprendre pour préparer la dictée. Et là, en fait, la dictée est un commentaire très simpliste de l'œuvre. Et on a des enseignants qui considèrent qu'ils font de l'histoire des arts en proposant ce texte en dictée. Et là, moi, je dis non. Enfin, on n'est pas du tout dans le questionnement d'une œuvre. On n'est pas du tout dans une approche sensible. Il y a un exercice complètement plaqué qui, à mon avis, ne peut pas être défini comme une science d'histoire des arts. Ensuite, la deuxième chose, en ce qui concerne, par exemple, l'expérience de Loup Noir, que je trouve très intéressante, c'est un album merveilleux. On peut se demander si là, est-ce qu'on est vraiment dans histoire des arts, art du langage ou pas? Parce que art du langage, enfin, ça suppose quand même de proposer des textes qui sont reconnus comme faisant partie du patrimoine littéraire. Est-ce que quand on aborde de la littérature jeunesse, on est dans l'histoire des arts ou pas ? C'est une question que je pose. Hein. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir des propositions différentes. Et...
Juste une petite réponse par rapport aux 5 propositions. Moi, j'ai construit ça en sachant qu'il y avait un débat derrière. Et c'était justement pas pour montrer des choses qui, selon moi, fonctionnent. Voilà. Et c'était vraiment, pour moi, le contre-exemple, on va dire, la dictée. C'était pour ouvrir des choses, montrer... qu'il se passe des choses qui sont pas forcément correctes. Et bon, le PowerPoint n'était pas terminé. Après, j'ouvrais sur orientation, réflexion. Et je me disais que l'histoire des arts, en tout cas à l'école primaire, ça devait peut-être être simplement le lieu où on va travailler la compétence au questionnement. Donc un petit peu ça, la problématique, le questionnement, lancer les élèves. Et c'est vrai que je rejoins assez sur l'approche sensible et une approche de tous les domaines. Et du coup, les jalons vont être posés parce qu'on aura vécu des choses. Et je suis complètement d'accord sur vos remarques.
Je vais m'opposer un petit peu là pour la dictée. Enfin, c'est pas sur le principe de la dictée, mais pour être dans l'histoire des arts avec la dictée. Par exemple, en travaillant sur à partir d'un texte de Lolipo, enfin, qui a été remanié, etc. Le texte Sphinx d'Anne Garetta. Dans ce roman, elle ne donne pas le genre du personnage. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en langue? Comment la langue marque le genre? Donc, on finit par montrer qu'on travaille que sur des adjectifs épicènes, qu'il n'y a pas de participe passé employé avec être, etc. Donc, il y a toute une réflexion sur la langue. Mais en même temps, c'est lié à la contrainte d'écriture, donc par Lolipo. Et ce travail-là, on peut le faire aussi donc en travaillant sur toutes les œuvres. Moi, je suis médiéviste, hein, donc j'ai beaucoup travaillé dans les circonscriptions aussi, donc sur les branches du roman de Renard, etc., des réécritures, les manuscrits, l'orthographe au Moyen-Âge, etc. Et donc je continue à travailler après les textes du XVIe, etc., donc la langue, l'orthographe, la syntaxe, etc. Et pour moi, tout ça, cette réflexion sur la langue, c'est bien la langue qui vit, la langue qui est un organisme vivant, etc. Et il me semble que je suis bien dans les arts du langage. Et donc, dans l'histoire des arts, quand je fais ces travaux sur la langue elle-même. Voilà. Donc, bon, je redonne la parole à mon collègue.
Oui, quelques mots modestes, parce que, en fait, bon, à titre personnel, je me suis beaucoup enrichi, je dirais, sur ces trois journées. Titre professionnel, bon, je suis directeur d'un groupe scolaire d'une douzaine de classes en élémentaire, quasiment le seul à essayer vaguement de faire un petit peu de l'histoire de l'art. Et disons que j'ai peur de repartir encore plus désemparé que le premier jour que je suis arrivé. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors qu'il y a quasiment plus de formation continue pour les collègues, ou ben, malgré peut-être les retours parfois sous forme de sondage, mais c'est généralement ceux qui font qui répondent, ceux qui ne font pas, ils restent plutôt discrets. Moi, sur mon secteur, département de l'Indre, donc pas très loin d'ici, à 40 km, je vois à la fois et sur mon école et sur les autres écoles élémentaires, hein, je dis pas maternelles, où il y a eu des pratiques, en termes de pratiques artistiques et de création beaucoup plus riches, beaucoup plus importantes, il y a quand même, je dirais, une situation relativement désertique, hein, dur. Donc c'est vrai que je me sentais, comme l'année dernière, j'avais mené l'équipe pédagogique sur la littérature enfantine, cette année sur l'histoire, un petit peu le devoir d'essayer de lancer l'équipe là-dessus. Et j'attendais aussi d'avoir, je dirais, accès à un certain nombre d'outillages. Hein. On a un programme avec des thèmes, des époques, et donc je pensais aujourd'hui qu'il y a des CD, il y a des DVD, qu'il y avait quand même la possibilité au moins de fournir en matière image ou d'enregistrement déjà de la matière non pas prédigérée, hein, pour les enseignants, mais au moins déjà de la matière brute qui corresponde au programme pour qu'on puisse, vis-à-vis des collègues qui hésitent et qui vont en reculant ou qui n'y vont même pas du tout, déjà leur dire ben il y a déjà des pistes de mise là-dessus. Deuxième petite chose, alors c'est une interrogation. J'ai bien compris que bon, la pratique artistique, les arts visuels, la musique, tout ça, c'est très important. Mais par rapport au programme, c'est quand même histoire des arts. Et que le premier mot, le titre, c'est quand même histoire. Et que ben, dans toutes les interventions sur les images, sur des tas de choses, il y a eu beaucoup de personnes, mais il n'y a pas eu quasiment d'historiens. Et que, bon, je sais bien que les arts, on ne peut pas les inscrire simplement sur une frise chronologique brute, mais il me semblait quand même que par rapport au programme, ça s'inscrivait quand même dans la culture humaniste, au niveau du bloc des compétences. Culture humaniste, c'est donc faire entrer les enfants aussi dans ces notions de pouvoir, des sociétés humaines, en crise ou en développement, par rapport aux grands événements, et qui me semblait quand même qu'au travers d'une approche sensible, hein, des œuvres, mais pourquoi à tel moment, telle sensibilité a pu s'exprimer ? Parce qu'on est peut-être le lendemain de la Première Guerre mondiale et que la sensibilité du peuple à ce moment-là, de la société, n'est pas la même que ben, lorsqu'on se trouve à la Renaissance ou en 1968, quoi. Et donc, c'est vrai que je suis demandeur un petit peu de cette approche peut-être un peu plus historique. Parce que bon, la pratique artistique, la créativité qu'on veut développer chez les enfants, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. Mais il me semblait que c'était quand même quelque chose qui dépassait ce simple cadre, cette histoire des arts, et qu'on avait à faire rentrer quand même les enfants, au travers des œuvres, dans des moments de l'époque humaine, dans des moments de la société humaine, et qu'il fallait mettre des relations avec... Donc voilà, c'est plus des interrogations qu'autre chose. Hein.
Mais je répondrai rapidement, mais il me semble que dans les projets qui ont été mis, que ce soit l'histoire de la tour de Cré, par exemple, qui avait cette dimension d'histoire. Voilà, mais la collègue a choisi d'orienter sur autre chose. Voilà, hein, mais là, c'est un choix.
Oui, non, c'est justement ça, pour rebondir, parce que moi je suis collègue d'histoire-géographie dans le secondaire. Donc en voyant tout ça, je suis un peu émerveillée, parce que je me dis, c'est bien d'être maîtresse d'école, c'est chouette, parce qu'on peut faire des projets de A à Z, et puis on peut faire travailler plein de choses. Et ça m'envoie un petit peu de manière, pas négative, mais un peu le cloisonnement de nos disciplines. Et au moins en histoire-géographie, depuis 3 jours, je me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves dans mon heure de cours et ma salle de classe? Parce qu'évidemment, on a vu des projets extraordinaires, mais c'est des projets exceptionnels, hein. Donc supportés sur une année, parce qu'on peut rencontrer des artistes, etc. Donc c'est des choses qui ne relèvent pas du quotidien de la classe. Donc j'ai l'impression qu'il y a une double démarche avec l'histoire des arts qui peut se mettre en place. À la fois une démarche externe qui reste exceptionnelle, qui est liée à des rencontres dans des musées, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la visite annuelle, quoi, la sortie annuelle. On peut pas sortir toutes les semaines avec les classes, et puis c'est des projets lourds. Les enseignants de primaire, ils ont une classe, mais nous, on en a 3, 4, 5, 6, 7 selon les disciplines. Donc on peut pas faire un projet par classe. Enfin, c'est des choses extrêmement lourdes. Donc il y a cette démarche externe de l'histoire des arts qui, à mon avis, en plus, est beaucoup plus axée sur le sensible, le sensitif, le visible dont parlait Monsieur Carland au début. Et puis il y a une démarche interne, intérieure, à l'intérieur de nos classes. Et où là c'est le format, c'est 55 minutes, quoi. Alors même si effectivement il y a des choses, je pense faut être très souple, hein, on peut pas systématiser les choses. Il y a des choses qu'on peut voir en fil conducteur sur une année, il y a des choses qu'on peut voir en fil conducteur sur une séquence, il y a des choses qu'on peut voir sur le temps d'un document, d'analyse d'un document. Mais au final, je me dis, et justement ça rebondit sur cette idée histoire des arts, j'ai l'impression que les arts, c'est toute la démarche sensible, visible, et puis que le mot histoire, nous on est dans le lisible, parce que forcément on va remettre de l'enjeu intellectuel, et c'est notre discipline qui le veut, mais j'ai presque le regret que nous on soit dans cet aspect très intellectuel, de reposer du sens, reposer du cadre, contextualiser, etc. Et du coup, ça va être toute la gageure, ça va être de se dire, comment nous en histoire, à la fois faire bénéficier de la richesse de notre enseignement, qui va être contextualisé, ancré, donner du repérage, mais en même temps s'ouvrir un petit peu à ce côté sensible qui est tellement peu ce qu'on est amené à faire dans nos classes. Donc c'est un peu pareil, j'ai trouvé ça extraordinaire ce matin, toutes ces choses, mais dans le secondaire, comment on se débrouille dans le cloisonnement des disciplines par rapport à tout ça.
Je peux vous inviter simplement à venir vendredi après-midi, hein, parce que ils sont là, voilà. Donc vendredi après-midi, il y aura donc une formatrice du UFM en histoire géo qui nous montrera ce qu'elle fait en formation du UFM, maintenant intégration à la fac, mais au niveau de la formation des professeurs de collège. Et j'ai invité également un enseignant, donc un historien qui travaille en lycée, voilà. Attendez, non, c'est un historien, donc c'est un prof d'histoire géo traditionnelle, etc. Et il a fait de l'histoire des arts dans sa propre discipline, en lycée, voilà. Hein. Donc ce matin c'était... Non, je sais bien. Donc c'est pour ça que je fais intervenir. Donc il y aura Angeline Augier, donc elle travaille sur le collège, et donc j'ai fait intervenir aussi Christophe Bourgeois, qui lui est en lycée. Voilà. Mais en même temps, vous voyez, 5 jours, ça a l'air très long, etc. Et en même temps, c'est très peu aussi. Voilà. Donc j'ai bien conscience de tous ces manques, effectivement, et de tous ces problèmes-là, quoi. Voilà. Mais on est là aussi pour les mettre à plat, réfléchir, pour dire quelles sont les solutions qu'on pourrait éventuellement trouver. Voilà. Donc je prends peut-être une ou deux de questions, et puis après on va courir manger pour retravailler encore cet après-midi.
Merci. Bon, alors concernant la sévérité de mes propos, ils sont ils viennent d'un constat qui m'est quand même assez pénible, c'est-à-dire que je pense que l'école est faite pour enseigner et pour donner des apprentissages. J'en suis convaincue. Et si les disciplines artistiques sont dans le cursus des enseignements, c'est bien parce qu'il y a des apprentissages. Et moi, je me porte un peu à faux par rapport à cette conception
conception de l'art qui ne serait que sensible et des disciplines fondamentales qui seraient elles des disciplines intellectuelles, enfin qui ne seraient pas dans ni dans la sensibilité alors que les autres le seraient. Il me semble justement, et c'est le problème d'un manque assez sidéral d'ailleurs depuis une trentaine d'années, concernant l'exclusivité des enseignements artistiques sur le versant de la sensibilité, de l'expression. Les disciplines artistiques, moi j'ai toujours fait de la chronologie, de l'histoire de l'art dans mes cours, toujours, et ça me paraît pas complètement impensable à l'agrégation et aux capacités d'art plastique et de musique. D'ailleurs, il y a toujours eu une épreuve d'histoire de l'art, par exemple, qui faisait état de cette chronologie. D'une part, alors ça c'est pour le versus connaissance, mais sur le versant aussi de la pratique, il y a évidemment une rationalité essentielle à la pratique des arts. Qu'est-ce que c'est que de transférer de la réalité avec des codes géométriques sur un papier? Enfin bon, la perspective, c'est une rationalité. Donc, par rapport à ce que vous disiez sur l'histoire de l'art, il y a d'abord histoire. Ben, s'il n'y avait pas d'artistes, il n'y aurait pas d'histoire de l'art. Hein. Ce sont les artistes qui ont conçu des scénographies, d'espace, un travail intellectuel sur l'espace qui a permis d'établir des démarches de discours bon, qui sont essentielles. Hein. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que l'histoire de l'art serait d'abord de l'histoire. Et cette dichotomie entre à la fois les disciplines artistiques et les disciplines dites fondamentales, d'une part. Et mon intervention de tout à l'heure voulait justement montrer que l'école était essentielle pour les disciplines artistiques et pour les autres, évidemment, au nom des apprentissages, et que c'est la dimension culturelle qui arrive à l'heure actuelle, zappant d'une certaine façon tous ces apprentissages de l'école, qui me paraît l'objet de mon énervement, parce que à mon avis, quand on n'a pas les connaissances nécessaires dans une discipline, on n'arrive pas à faire du transdisciplinaire, on fait du pluridisciplinaire, ce qui n'est pas du tout pareil. On fait une des ajouts disciplinaires autour d'un thème, mais pour moi ça n'est pas du pluridisciplinaire et de la pédagogie de projet. Voilà, c'était l'objet de mon intervention. S'il a été mal comprise, j'en suis désolée, mais c'était autour de cette question là quand même. Et donc mettons les charrues avant les bœufs et les apprentissages en premier lieu avant de faire du transdisciplinaire et du culturel. Voilà, c'était un peu ça la question.
Voilà, donc moi je suis passée par plein d'états hein, depuis 3 jours, entre des énervements qui peuvent rejoindre ma collègue, mais peut-être pas avec les mêmes mots, et puis plein de questions, puisque je suis formatrice à l'UFM de Bretagne, et donc que j'enseigne et je forme à la fois le premier degré et le second degré. Voilà, donc c'est très récent pour moi puisque c'est seulement 2 ans, mais c'est vrai que on se pose plein de questions surtout l'appropriation par les enseignants du premier degré de tous ces secteurs. Donc moi je dirais, par rapport à mon travail aussi d'enseignante du terrain, je dirais que ce qui me semble le plus important, c'est le dialogue. Et que effectivement, là, ce qui a été montré par les collègues qui sont conseillers d'art visuel, ce sont effectivement des expériences de projet qui ont effectivement le mérite d'exister. Et effectivement, il y a aussi, bien sûr, des dérives. Donc, je pense que c'est à nous, formateurs, inspecteurs, conseillers, justement, d'aider les gens à ce qu'il n'y ait pas de dérives. Voilà, mais sans que la critique soit non plus complètement virulente, parce que on a affaire avec les gens du premier degré à énormément de peur en ce qui concerne les arts visuels et la musique. Alors on a la chance, c'est une des chances du master, mais c'est pas le cas dans toutes les académies, je viens de m'en rendre compte, que dans le master 1, il y a maintenant un travail qui est fait dès le master 1 en direction de ces disciplines. Et je peux vous dire que les étudiants qui viennent justement de lieux différents d'apprentissage et de construction des savoirs sont très heureux de ça. Hein, parce que ils arrivent avec beaucoup de frayeur et déjà au bout d'un semestre, ils font des projets en commun. Et ça, c'est important. Et moi, j'ai entendu des choses au bout d'un semestre et des gens dire, à travers les disciplines artistiques, nous nous sommes fédérés. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important, parce que se fédérer autour des idées, c'est construire et écouter les idées des autres aussi.
Oui, je voulais moi aussi clarifier mon propos. Je suis très admirative de ce qui est fait en primaire, et je rejoins ce qu'a dit ma collègue du second degré, parce que j'enseigne en lycée et je suis formatrice UFM premier degré. C'est que nous, on est très cloisonnés en second degré, donc je trouve ça extraordinaire de pouvoir. Et en fait, les idées que j'ai avancées, c'est des possibles en tant que formatrice. C'est-à-dire que je me dis que j'ai du boulot, et qu'on a du boulot pour répondre à l'attente des collègues du premier degré en particulier, puisque c'est là que j'interviens, pour les aider peut-être à se décomplexer et aller encore plus loin dans la transdisciplinarité, et pour qu'ils aient plus peur, effectivement, moins peur de l'histoire ou de ce genre de démarche. Quoi. C'était pas du tout une critique, hein, je trouve. Vraiment, voilà, c'est une des pistes, des possibles pour moi, qui me questionnent moi en tant que formatrice d'histoire, et je me dis j'ai du boulot pour les aider à, voilà. Hein.
Merci, mais peut-être que l'une des pistes, c'est ça, c'est donc créer en master 1 et master 2 des sortes de binômes ou trinômes un petit peu sur le modèle de ce que fait David Gauthier là à l'ENS. Et donc là, c'est bien qu'il y ait les fusions ENS lettres et ENS sciences pour créer justement une réflexion, enfin un travail véritable entre des scientifiques, des matheux, etc. Et voilà, pour faire une réflexion sur l'histoire des arts. Donc c'est à suggérer, c'est à construire, etc. À table. Voilà,
Juste toujours pour revenir sur le secondaire, et puisque disait ma collègue d'histoire géo dont j'ai pas retenu le prénom, c'est que effectivement c'est pas le cas dans toutes les académies non plus, mais c'est vrai que dans l'académie de Rennes on travaille dessus sur la formation du secondaire, et que sur l'histoire des arts on a un large volet, et que on travaille en culture humaniste, hein, c'est-à-dire on est en groupe d'accompagnement, on est plusieurs formateurs en même temps avec l'ensemble des professeurs d'histoire géographie, d'art visuel et de lettres, et on les aide, on les accompagne dans leur réflexion très jeune d'enseignants, hein, puisqu'ils ont moins d'une année, sur la construction d'un travail d'équipe aussi.